Bonsoir à tous. Tout d'abord, un grand merci à Johanna et Dov. J'allais dire plutôt Johanna que Dov d'avoir préparé cette table. Parce que c'est pas simple. En pleine semaine comme ça, les gens ils travaillent, se préparent. Et c'est toujours intéressant d'avoir un cours de Torah dans la maison. Pas seulement que c'est important, le rabbi conseillait à chaque fois que pour l'harmonie dans le couple, pour Shalom Bayit, c'est toujours bien d'avoir un cours de Torah dans la maison, c'est ce qui peut aider. Et ça amène la bracha dans la maison. Ça amène la bracha du fait qu'on n'est pas là dans la maison seulement en train de se chamailler, crier, manger, parler des affaires ou quoi que ce soit, mais aussi apprendre la Torah et que les parents et que les enfants pardon, puissent voir que les parents ils sont là en train d'apprendre, d'organiser des cours de Torah, réunir du monde. Je pense que c'est énormément important. Et surtout, comme Johanna me disait ce soir, c'est aussi la Hiloula de Rabbi Yitzhak Abuchatzira. Je ne sais pas combien de gens ici ont entendu parler de Rabbi Yitzhak Abuchatzira, ne pas confondre avec celui que tout le monde connaît plus récent, en rapport avec Baba Meir. Là, on parle d'un des fils de Rabbi Yaakov Abuchatzira qui est décédé. Il n'est pas vraiment décédé, il a été tué. Est-ce que quelqu'un connaît son histoire? Dov?
Charlie, tu connais l'histoire?
Que quelqu'un connaît l'histoire? Alors oui, alors d'abord le cours est bien sûr dédié à la sécurité de nos frères et sœurs en Israël. Protection de nos soldats. Dieu fasse qu'on entend, qu'on partage que des bonnes nouvelles.
Amen.
Et qu'on en finisse une fois pour toutes avec tous ces ennemis qui sont en train qui attaquent Israël depuis tous ces continents, de tous ces pays. Et qu'on puisse éradiquer, pas seulement le Hamas, mais tous les autres une fois pour toutes. Pour la guérison de tous les blessés, pour le retour de tous les otages. Ainsi que pour la guérison de Israël Ben Aïcha et, tu m'as dit,
Nahum Ben
Rachmona. Et tout celui qui désire, qu'on entend et qu'on partage toujours que des bonnes nouvelles.
Amen.
Rabbi Yitzhak Abuchatzir est né en 1860. Et il a été tué ce soir, le 14 Shvat 1912, 2 février. C'était le plus jeune fils de Rabbi Yaakov Abuchatzir, qui était le grand-père de Baba Saleh. Il est né à Rissani au Maroc. Il est appelé Rabbi Yitzhak sous le nom du Arizal, le Ari Akadosh. Il habitait et vivait dans la ville d'où il est né, sa ville natale. Là-bas, il a appris la Torah de Niglé, la Chassidut, dans la yeshiva de son père, parmi eux, avec son neveu, Rabbi David Abuchatzira, et Baba Saleh, qui était parmi ses élèves. Après quelques années qu'il a appris dans la yeshiva, il a décidé d'apprendre tout seul. À l'âge de 16 ans, il a déjà écrit des préfaces aux livres de son père. À l'âge de 23 ans, il a enseigné à plusieurs élèves, il a commencé à écrire des livres. Même s'il n'avait pas un rôle officiel dans la yeshiva, il était important autour de tous les gens, tous les juifs, de Tafrilat. Il a été envoyé plusieurs fois pour aller ramasser de l'argent pour la yeshiva. Un certain temps, il a décidé de voyager en Israël. Il est resté là-bas une certaine époque. Après, il est revenu au Maroc. C'était en 1903. En Israël, il s'est marié avec la fille de Rab Moshe Ben Naïm. Mais en revenant au Maroc, il a divorcé. Il était connu comme un tzaddik, un saint, quelqu'un qui avait Ruach HaKodesh. Pendant l'hiver de 1912, il est parti pour aller ramasser des fonds pour la yeshiva. Et pendant le voyage, c'était vendredi 14 Shvat, il a été tué par des bandits dans la ville de Toulal. Et là-bas, il a été enterré le même jour. C'était juste avant l'entrée de Shabbat. Son cercueil, sa tombe, elle est toujours présente là-bas. Et c'est un endroit que plusieurs gens vont pour prier, pèleriner à Toulal. Quand je préparais le courrier, je cherchais exactement c'est où exactement Toulal, parce que quelqu'un l'a entendu une fois parler. C'est à côté de Midlat. Ça ne veut pas dire grand-chose, parce que les gens connaissent plus tout ce qui est la partie, on va dire, de gauche, qui est Marrakech, Casablanca, Fès. C'est vraiment de l'autre partie. Ça, c'est l'endroit où il se trouve. Je ne sais pas si des gens sont partis visiter sa tombe. En tout cas, que le mérite de ce tzaddik ce soir soit si présent pour tous ceux qui sont présents, ainsi que pour tous les peuples juifs partout où il se trouve. Il y a ici, si quelqu'un veut suivre dans le texte pour les sources du cours de ce soir. Est-ce qu'on va parler de ce soir? Un cours, je pense, très intéressant et surtout important dans la paracha de cette semaine. Le cours, il est en replay sur retora.fr, application des cours du Vetravat Seneman. Et bien sûr, la paracha, c'est une paracha bizarre. On en a parlé hier soir dans le cours du fait qu'elle commence avec une énorme joie. On sort d'Égypte et elle termine avec la guerre d'Amalek, qui est juste à la fin de la paracha. J'ai dit tout à l'heure d'offre que le buffet est ouvert. Je ne vous cache pas que tout est cachère et mangeable. Ce n'est pas artificiel, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Vous pouvez en profiter, manger. J'ai l'habitude dans tous les cours en général que les gens mangent comme ça, moi, ils ne parlent pas. Savez-vous, n'hésitez pas. Hier, on a parlé dans le cours pour rappeler, vous pourrez le revoir après si vous voulez sur l'application et sur le site, sur retora.fr, comment vaincre le Hamas. Pourquoi on a une telle haine contre Amalek? Pourquoi la Torah, d'un côté, te dit, t'as pas le droit de haïr les Égyptiens, t'as pas le droit de leur en vouloir, l'autre est à Ev Mitzri, parce que Kiger a dit à Béarto, parce que tu habitais dans sa terre, alors qu'à la fin, elle a pourtant, on a souffert et subi là-bas pendant 86 ans, alors qu'on arrive à la fin de la paracha, on a rencontré un inconnu qui est venu faire la guerre à un peuple inconnu. On n'était même pas sur sa trajectoire. C'était pas une question de territoire, c'était pas une question d'argent, c'était pas une question de religion. C'était tout simplement la haine gratuite. La haine du juif parce que les juifs existent. Comme le Hamas aujourd'hui et comme tous ces autres ennemis qui attaquent Israël à longueur de journée. Et la question qu'on a demandé, pourquoi la Torah te demande que face à Amalek, la seule solution, c'est l'éradiquer de la planète. Machot, imchet, zecher Amalek, tu dois l'effacer, il n'a pas le droit d'exister. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de convoi humanitaire, il n'y a pas de pourparlers. Amalek, on l'éradique. Ça, c'est le cours d'hier soir, on ne va pas le refaire ce soir, on peut le revoir sur Torah.fr ainsi que sur l'application. Ce soir, on va parler d'un autre sujet de la paracha, et c'est un sujet que j'en ai demandé, qui est relié avec la situation actuelle dans le monde, et particulièrement en Israël. Comment avoir un certain bitachon, comment avoir une certaine stabilité quand tout a l'air de s'effondrer? Comment avoir ce qu'on appelle pas seulement la emouna? La emouna, c'est bien. La emouna, on va dire, c'est la foi en Dieu. Il n'y a pas un juif qui n'a pas cette foi en Dieu, qui ne croit pas en Dieu. Bitachon, c'est beaucoup plus fort. Alors, mis à part le fait qu'en Israël, on a les Shabbat, les Shabbat, les Shinbet, Shiruté Bitachon Aklali, qui sont les services de sécurité, mais Bitachon, c'est la certitude. Comment avoir la certitude que tout ira bien? Et peut-être on se trompe. Peut-être qu'on ne mérite pas. Peut-être qu'on n'est pas à la hauteur. Peut-être qu'on a mérité une fois et qu'aujourd'hui, peu importe pourquoi, on n'a pas la chance de pouvoir profiter de cette sécurité, de ce Bitachon. J'allais poser une question plus générale. Pourquoi Bitachon? Parce que la paracha de cette semaine, c'est la paracha qui nous parle de la manne. Qu'est-ce qu'était la manne? On va parler ensemble ce soir, chacun son tour. C'est quoi la manne?
La nourriture que l'Israël mangeait pendant le désert.
La nourriture que l'Israël mangeait pendant le désert. Comment tu t'appelles toi?
David.
David. Dis-moi c'est quoi la manne?
C'est un cadeau.
La nourriture.
Voilà. Un cadeau du ciel. C'est sûr que c'était un cadeau?
C'est Dieu qui donnait.
C'est Dieu qui donnait. Est-ce que ça, c'est un cadeau ou c'est pas un cadeau?
Ça, c'est la pire épreuve qui existe.
Hein?
C'est la pire épreuve.
Bravo. On a ici quelqu'un qui te contredit. Lui, il a dit que c'est la pire épreuve. Moi, je te demande une question. Tu habites où?
Dans le 9e.
Dans le 9e. T'as une maison? Tu dors pas dans la rue?
Non.
À la maison, t'as un frigidaire?
Oui.
Si je te dis ce soir, tu vas dormir, il n'y a rien dans le frigidaire. Absolument rien. Demain, tu te réveilles, t'as pas où acheter quoi que ce soit. Il n'y a rien. Est-ce que tu penses qu'on peut vivre comme ça? Est-ce que tu pourrais vivre dans un endroit où je te dis tu as à manger que pour aujourd'hui? T'as rien pour demain. Ni tu peux acheter, ni tu peux trouver, ni tu as un frigidaire, ni tu peux pas le garder ce que tu as. T'as rien. T'as une portion d'aujourd'hui, t'as plus après. Est-ce que tu te vois vivre dans une telle situation ou tu te dis ça peut pas exister une telle situation?
Oui.
Ça peut exister. Oui, malheureusement on a vu avec les otages qui sont sortis du Hamas. Qui te raconte comment ils mangeaient une demi-pita par jour, quoi que ce soit, c'était la ration du jour. Et qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient avoir demain. Mais que Dieu nous en préserve, je ne pense pas que c'est une situation dans laquelle chacun peut se retrouver. La paracha de cette semaine nous parle d'une telle situation. Et c'est pour ça qu'on va débattre ce soir. Est-ce que la manne, c'est un cadeau? Ou c'est le pire des épreuves, peut-être le pire des cadeaux? Peut-être le pire des malheurs qui a pu arriver au peuple juif? Allez-y, vous. Vous appelez comment?
Simon.
Simon, dites-moi. La manne. Est-ce que vous voyez vivre une situation dans laquelle on vous dit il n'y a rien à manger ce soir? Le frigidaire est vide, demain vous n'avez absolument rien, vous ne pouvez pas acheter nulle part, vous êtes dans un désert. Est-ce que c'est vivable?
Difficilement.
Difficilement. Pourquoi difficilement?
Parce qu'il faut survivre avec un minimum, une substitution d'un repas.
Substitution d'un repas. Donc c'est pas vivable. Qui c'est qui veut dire le contraire ou qui c'est qui veut... Allez-y, pourquoi pas?
Non, le contraire, mais moi, c'est positif.
Positif, alors dis-moi. Moi, je tutoie tout le monde. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? C'est quelque chose de normal ou pas normal? Et pourtant, on raconte ça
les
tous
deux,
les jours.
Non, les deux sont possibles.
Qu'est-ce que c'est?
Ça peut être normal, comme un enfant, on va lui donner à manger, et que c'est un adulte, il va aller travailler pour avoir...
Je suis d'accord avec toi, mais je te demande une question. Ce soir, tu vas dormir, t'as plus rien à manger à la maison. Demain, le frigidaire, il est vide. Tu ne peux pas acheter quoi que ce soit. Tu n'as pas où acheter. Pas parce que tu n'as pas d'argent. Tu as des lingots d'or, tu as des millions en banque. Il n'y a pas où acheter. Est-ce que c'est une vie normale ou pas une vie normale? Est-ce que c'est un cadeau ou c'est quelque chose qui est la pire des épreuves qui peut exister?
C'est un cadeau.
Mon point, c'est une épreuve qui est dure.
Bien sûr que c'est pas
parce que c'est l'habitude. On va donner, c'est comme un enfant. On va lui donner à manger tous les matins. On va lui habituer à ce système-là.
Donc
pour moi, non, ça devrait pas être logique.
Ça devrait pas être logique. Okay. Donc si tu as des enfants...
Si j'ai aujourd'hui mes enfants, je leur donne pas la nourriture à table comme elle est là aujourd'hui. Je leur dis, s'ils veulent du lait, très bien, tu veux du lait, tu vas te plaire, tu vas chercher. Ah. Tu le ramènes à table.
Oui.
Tu vas faire ton petit déjeuner.
Je suis d'accord, mais si tu leur dis ce soir, il n'y a plus rien à manger dans la maison, demain, je ne sais pas ce qui se passe, c'est un cadeau que tu leur donnes?
Non, ça va être une épreuve.
Une épreuve, ok. On va demander du côté des femmes, je ne sais pas si les femmes les écoutent ou ils sont en train d'avoir leur propre cours. Vas-y, tu te retournes à ton tour. Laura? Disons que ce n'est pas normal, mais tu as 50% que ça peut être normal. Je sais qu'à la maison, il y a des gens qui vident le frigidaire tous les soirs. Mais je te parle de le remplir le lendemain. Est-ce que c'est vivable? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut concevoir? Est-ce que c'est un cadeau? C'est ça que ma question est. Est-ce que c'est normal ou c'est quelque chose qui est... C'est impossible. C'est inconcevable que quelque chose pareil se passe.
Un cadeau, c'est pas normal.
Alors quand même, faut être...
Un cadeau, c'est exceptionnel.
Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que ça, c'est un cadeau?
D'un cas, bien sûr.
Ok. Alors explique-moi, pourquoi c'est un cadeau?
Parce que je sais pas ce que tu vas manger demain. Je vais manger, je reçois quelque chose qui me permet de vivre.
Ah, mais tu sais pas ce que tu as demain.
Ah, je sais pas ce que j'ai demain, mais en tout cas aujourd'hui c'est un cadeau.
Ok, donc pour toi c'est un cadeau. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un du côté des femmes? Personne n'écoute? Ok. Alors?
C'était pas un cadeau pour tout le monde, vu qu'il y en a qui avaient besoin d'aller beaucoup plus loin que d'autres pour aller chercher la manne.
Et donc? Voilà. Très bien, mais tu pouvais aller le chercher quelque part.
Bien sûr.
Mais ça fait... Là, je te dis, tu n'as pas où à chercher. Je te dis, ce soir, tu n'as plus rien dans la maison. Demain, tu n'as pas où aller chercher quoi que ce soit. C'est fini. Il n'y a pas. Ce qu'on va voir, chers amis, ensemble. Je pense que... Quand on parle de bitachon, quand on parle de... Tu vois, pourquoi il fallait mélanger les couples.
Mesdames.
On a l'habitude. Quand on parle de bitachon, c'est vrai que... Les gens ont tendance à expliquer quand tu dis bitachon, qu'est-ce que ça veut dire bitachon, avoir confiance en Dieu. Ça, s'appuyer sur Dieu, être garanti qu'il y aura la sécurité. Tu dis, pense bien, tout ira bien. Alors d'abord, analysons, qu'est-ce que ça veut dire avoir le bitachon? Je dis que d'abord, c'est une mitzvah. On ne parle pas seulement d'une ségoula, comme on dit, ou d'un bon conseil. On va voir qu'est-ce que Rabbi Yona, de Gironde, en Espagne, il dit que c'est une mitzvah, le taasé, qui nous oblige, une mitzvah négative, qui nous oblige à chacun d'entre nous. Comme on a le devoir de s'arrêter de travailler Shabbat. Regardez le numéro 1, celui qu'elle a fait poursuivre. Chumash Dvarim, chapitre 20. Le Torah nous dit qu'il était la milchama loivecha. Quand tu verras, quand tu sortiras sur la guerre contre tes ennemis, à ce moment-là, tu vas voir un cheval et tu vas chevaucher, etc. En deux mots, tu vas voir des ennemis. L'otira même, n'aie pas peur d'eux. Viens le charet Shuvah de Rabbeinu Yonah. Et il te dit que là on a appris que si quelqu'un il voit qu'il y a une souffrance, un malheur qui peut arriver, il a le devoir d'avoir ce qu'on appelle le bitachon en Dieu, d'avoir cette certitude qu'il va s'en sortir et il finira par s'en sortir. Mais la Torah te dit que c'est pas juste ici un bon sentiment, on te donne ici un sentiment de vouloir se rendre la vie facile, mais beaucoup plus que ça. On parle ici d'un changement du mazal, un changement du sort d'une personne. Le fait que quelqu'un ne va pas faire attention à toutes les menaces, à toutes les difficultés, et là, cette bitachon, cette certitude que Dieu va être là pour l'aider, ça même, ça transforme sa vie en positif. Regardons ce qui est écrit dans le Tehillim, le roi David, vous avez dans la feuille, Tehillim, chapitre 32, verset 10. David est malachi dit, Vaboter, Bachem, vous avez les feuilles?
Non,
on a distribué les feuilles, ils sont partis tout à fait. Celui qui a confiance en Dieu, celui qui a cette certitude en Dieu, la bonté va l'entourer. Viens dans les écrits. Le quatrième Amar, chapitre 46, il te dit. Mais derrière le bitachon, vous avez fait. Le bitachon, c'est quoi? Le hamshir chesed chinam à la batrim bachem. De faire descendre une bonté gratuite, pas parce qu'on mérite ou pas, surtout celui qui a confiance en Dieu. Le fait que tu as cette certitude et tu es convaincu que Dieu va t'aider, ça même, ça te donne la chance de pouvoir être aidé. Viens le Yalkut Shimon de Naishaya. Et il te dit, « Shikol mi sheboter bishmi ani matzilo. » Tout celui qui a confiance en moi, Dieu dit, « Je vais le sauver dès qu'il est dans un moment de souffrance. » Celui qui habite à Khan. Écoutez ce que l'avis précédent, le 5e et 6e avis de Chabad raconte. Avec un chassid qui apparaît au temps du Tzemar Tzedek, qui était le quatrième rabbi de Chabad, son fils est tombé gravement malade. Et il était en grave danger. Il a décidé de partir de la maison, il est parti le voir dans la ville de Lubavitch. Et dans tout ce moment du voyage, il n'avait pas de portable comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp. Il n'a pas contact avec la maison. Il est arrivé chez le rabbi, il était vraiment brisé parce qu'il s'est dit, quand je suis parti de la maison, la situation de mon fils était déjà difficile. Maintenant que je suis arrivé après un voyage de quelques semaines, certainement que la situation, elle est encore beaucoup plus grave. En arrivant là-bas, le rabbi il rentre dans le bureau du Tzemar Tzedek et commence à pleurer. Et le rabbi lui répond 5 mots en yiddish, c'est presque comme pour les Marocains, « Tracht gut, vet zain gut ». Pense bien et tout ira bien. « Chashov tov, yietov », qui est aujourd'hui un fameux slogan, un fameux chanson. Ça, c'est la lettre du rabbi précédent dans le volume 2, page 537. Mais on a ici une autre lettre. Une lettre que le rabbi a écrite dans le volume 3, page 372. Un juif qui écrit au rabbi, qui travaille comme shochet dans une ville, dans un endroit. Il travaille comme shochet dans un endroit. Et tout d'un coup, son père est décédé, il doit maintenant faire le kaddish. Et il dit que dans la ville où il est, il ne peut pas trouver un minyan pour faire le kaddish. Il demande au rabbi, est-ce que je dois continuer à travailler dans cet endroit pour amener la parnassa, pour amener le gain de vie à ma famille? Et à ce moment-là, je pourrais en même temps payer les dépenses de l'enterrement de son père. Ou bien l'essentiel, c'est de déménager, de délocaliser, d'aller dans un endroit où il pourra faire le kaddish, quitte à perdre sa parnassa. Ça, c'est la question qu'il a formulée au rabbi. Est-ce que je reste dans l'endroit où je suis, où je travaille actuellement, mais il n'y a pas un minyan, je ne peux pas faire kaddish? Ou bien je délocalise, ou je démissionne, ou je change de travail. Mais au moins, je pourrais faire le kaddish. Écoutez comment le rabbi lui répond, je vous lis le mot, texte, la lettre, c'est tellement riche. Vous l'avez dans le troisième paragraphe.
Mesdames, s'il vous plaît. Mesdames.
Lui était shochet. Exactement. Sauf qu'il était shochet dans un endroit, certainement, où il y a les abattoirs, etc. Il n'est pas forcément un minyan là-bas. Maintenant, il a perdu son père, il doit faire kaddish. Il s'est dit, où je suis, il n'y a pas de minyan.
C'était pour savoir au moins son travail.
Oui, mais peu importe le travail, tu vas voir comment l'approche que le rabbi lui donne en fonction de sa question. Et sa question, c'était, je ne peux pas faire les deux. Où je travaille pour gagner ma vie, mais il n'y a pas de minyan, et je ne pourrais pas faire le kaddish pour mon père. Ou bien, je déménage, mais où je vais déménager, je ne vais pas forcément trouver du travail, mais au moins, je pourrais faire le kaddish.
Comme il est shochet, il y a peut-être un rôle à jouer qui est différent.
Une seconde, regardons la lettre, comme l'a dit. Regarde les mots.
La réponse.
Vemanel Mirtavo, l'Abbé l'a dit. En réponse à ta lettre de vendredi, à Shoel, tu me demandes, est-ce qu'il faut revenir et prendre un jab? Là, vous avez dans le troisième paragraphe. Oui. Est-ce que vous avez revenir pour prendre un travail de shochet dans la ville où il n'y a pas de minyan, et tu ne pourras pas dire le kaddish ni faire le chazan, et tu pourras t'appuyer sur tes deux frères qui le font, mais grâce à ça, tu pourras gagner ta parnassa, avoir l'argent pour ta femme, tes enfants, pour ta famille, et même tu pourras payer les dettes que tu as prises pour l'enterrement de ton père. Le rabbi dit, c'est connu ce que les chachamim nous disent, que plusieurs personnes ont le droit de faire plusieurs choses pour la parnassa. Surtout que ici, tu as deux frères qui disent déjà le kaddish. Donc à la rigueur, c'est pas qu'il y ait personne qui dit kaddish pour ton père. Et en plus, tu pourras en même temps payer les frais que tu t'es engagé pour l'enterrement, etc. Et donc, tu peux toujours placer, nommer quelqu'un d'autre pour dire le kaddish à ta place, comme on a l'habitude de faire, ce qu'on appelle la prise en charge du kaddish. Mais là, le rabbi rajoute trois lignes. Le rabbi lui dit comme ça. Tout ça, je t'ai écrit parce que je connais pas quelle est ta situation au niveau du bitachon. Quel est ton niveau de bitachon en Dieu? Mais si tu es fort dans ton bitachon, et si tu es tout à fait, on va dire, avec cette foi qui est la plus solide et la plus naturelle, et tu vas chercher un autre moyen pour ta panassa, Dieu t'enverra une panassa dans l'endroit où il y a un minyan et tu pourras faire tout ce que tu as envie de faire. Et puisque je ne sais pas exactement où t'en tiens dans la vie, alors tu sais quoi, au pire, ton frère le dit, tu peux louer quelqu'un à ta place, mettre quelqu'un en place. Mais si vraiment tu es fort en bitachon, t'inquiète. Le bon Dieu peut t'envoyer la parnassa ici, peut t'envoyer la parnassa là-bas aussi. Sois fort. Si on analyse cette lettre, et on va voir le rapport avec la parasha de la semaine, on voit qu'on a deux manières d'agir dans la vie, chacun d'entre nous. D'un côté, on peut agir d'une manière qui est, on va dire, la manière la plus naturelle. Donc la halakha te dit clairement que quand tu dois choisir ta parnassa, la parnassa passe avant tout. Parce que la halakha, elle tient qu'un juif doit travailler pour gagner sa vie. Il ne doit pas vivre sur la tzedaka, il ne doit pas se dire 6 jours tu te reposeras et le 7e tu travailleras. Mais à chaque fois que Dieu nous parle de Shabbat, il te dit, 6 jours tu travailleras et le 7e tu te reposeras. Il n'y a pas une seule fois dans toute la Torah que quand la Torah elle te parle de faire Shabbat, qui n'est pas précédée par la phrase 6 jours tu travailleras. Même quelqu'un qui a des milliards en banque, comme tout le monde ici présent, la Torah elle te dit, tu dois travailler. Tu as le devoir de travailler. Pourquoi? Parce que c'est la devise que Dieu il a donnée à Adam quand il a créé l'humain, que Adam l'a mal eu l'aide. Un être humain a été né pour travailler. Et pas pour rester juste bronzer, s'asseoir, être à Dubaï sur la plage et se dire, un jour ou l'autre, il y a quelque chose qui va se passer. Ça, c'est la norme. Mais la Torah, elle te dit, tu as le deuxième chemin. Le deuxième chemin, c'est d'avoir bitachon en Dieu. Et au lieu d'aller vers ton sort, de créer ton nouveau sort, et se dire que parce que j'ai bitachon en Dieu, Dieu va m'arranger la situation, peu importe dans quel endroit je me trouve. Et ce n'est pas parce que je vais faire tel ou tel effort que je vais gagner plus. Et si je vais faire tel ou tel effort dans un autre endroit, je risque de gagner moins. C'est bon Dieu qui t'envoie la parnassa. C'est bon Dieu. Il peut t'envoyer dans tel endroit comme dans tel endroit. Ça ne dédouane pas qui que ce soit de ne pas faire ce qu'on appelle une ishtadout, de faire ce qui dépend de nous au maximum. Mais au final, il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui envoie la parnassa. Ce n'est pas mon effort, mon rendez-vous, mon cabinet, etc. Maintenant, sur ça même, on va voir qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées à travers toutes les générations. Première question, elle est, est-ce que la vie, vraiment, elle se passe de la manière qu'on l'expose? Tu veux dire, j'ai mis ta chône en Dieu. Je demande à Dieu tout ce que j'ai besoin. T'appuies sur un bouton, tout tombe. Parce que j'ai mis ta chône, Dieu va le faire. Est-ce que vraiment les choses se passent de cette manière? Je ne sais pas par rapport au public ici présent, mais je peux vous dire que dans la vie de tous les jours, je sais combien tu peux parfois demander des choses à Dieu et tu ne vois pas forcément la réponse de ce que tu as demandé automatiquement. Donc ça, c'est numéro un. Ce n'est pas ce qu'on appelle, comme on dit, hocus pocus, comme on disait. Tu appuies sur un bouton, tout tombe. Numéro un. Est-ce que Dieu, il est venu pour être à notre service? Si tu demandes à Dieu, j'ai besoin d'avoir 2 voitures, 2 maisons, 2 vacances, bref, peu importe ce que chacun demande à Dieu, dit, t'as demandé, tu recevras. Ça, c'est numéro un. Est-ce que parce que tu as bitachon de gagner au loto, ça veut dire que tu vas gagner au loto? Je ne sais pas combien de gens ici, ils ont joué une fois dans leur vie au loto. Ouais. Mais je ne pense pas que tous ceux qui ont joué ici au loto, ils ont tout de suite gagné dès qu'ils ont joué. À moins que je ne connais pas la vie de chacun. Numéro 2, et là, c'est une question qui est beaucoup plus solide. Sur quoi s'appuie le bitachon? Combien de gens peuvent te dire qu'à chaque fois qu'ils se sont posé la question « J'ai bitachon en Dieu », juste après ils ont eu le doute. Et qui dit que je mérite? Et qui dit que Dieu me doit quelque chose? Qui dit que je dois recevoir ce que j'ai envie? Est-ce que chacun qui a des enfants, il sait qu'à chaque fois qu'un enfant lui demande quoi que ce soit, il répond oui à tout? On sait que parfois on dit à nos enfants non, et parfois il n'y a pas de réponse. C'est écrit nulle part que parce que tu demandes, tu dois avoir une réponse automatique et une réponse oui. On ne comprend pas les chemins de Dieu. Et puisqu'on ne comprend pas les chemins de Dieu, pas forcément qu'à chaque fois qu'on a un bitachon, puisque j'ai bitachon, ça veut dire que tout va tomber. Tu peux avoir un bitachon, et les choses ne vont pas se passer comme tu veux. D'où on le sait. On a vu ça il y a quelques semaines avec Yaakov. Yaakov a eu la chance d'avoir une promesse de Dieu directe. Dieu lui a promis qu'il va le sauver des souffrances de Lavan. Dieu lui a promis qu'il allait le sauver des souffrances d'Esav. Et néanmoins, la Torah nous dit, va yira Yaakov, va yetzalo Yaakov, il a eu peur, et il s'est fait des soucis, et Chachamim nous disent, c'était quoi le problème de Yaakov? Shema gara machet. Peut-être qu'il a fait des erreurs, et qu'il ne mérite plus à recevoir la protection que Dieu lui avait promis. Si Yaakov, que Dieu lui a promis en direct, je suis avec toi, n'aie pas peur, je te protégerai, il a quand même eu peur. Combien chacun d'entre nous qu'on n'a pas parlé avec le bon Dieu, en tout cas personne, je n'ai jamais vu, et je n'ai jamais entendu parler. Et concrètement, même si Dieu te dit que tu dois avoir le bitachon, quelle est la certitude? Parce que tu as le bitachon, Dieu te dit, ah, tu as le bitachon, cause à effet, tu vas recevoir ce que tu as demandé. Pas forcément. Cette question, le Rabbi la demande dans les côtés Sikha 36, page 3. Vous avez dans le paragraphe suivant. Le Rabbi demande cette question en disant, Mawayesod levadaoudzou. Quelle est la base, quel est le fondement d'une telle certitude? Quand tu dis bitachon, bitachon, ça veut dire que tu as cette certitude. Tu sais que les choses vont se passer comme il faut. Même quand tu as une promesse directe de Dieu, ça se peut que la promesse ne va pas s'accomplir. Tu peux que tu as peut-être fait une erreur, comme Yaakov il a dit. Un peu pour cette raison qu'on n'a pas de promesse de Dieu. Et donc on doit tous avoir cette crainte à l'intérieur de nous. Peut-être qu'un jour on n'a pas fait les choses à 100%, et peut-être qu'on ne mérite pas aujourd'hui telle et telle promesse. Donc ce n'est pas parce que j'ai mis ta ronde que forcément je vais recevoir quoi que ce soit. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout ça n'enlève pas le fait qu'on doit toujours faire tout ce qui dépend de nous, au maximum pour pouvoir mériter ce bitachon, mériter cette protection et mériter ces bénédictions. Mais pas forcément parce que nous, on a fait tout ce qui dépend de nous, que Dieu va nous le donner. Pour ça, il faut rentrer dans la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est si on peut dire la paracha du bitachon. C'est la paracha centrale qui nous apprend qu'est-ce que ça veut dire avoir bitachon en Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, la paracha, elle est bizarre parce qu'elle commence avec une histoire sortie d'Égypte dans laquelle on a un peuple de quelques millions de personnes qui s'enfuient de l'Égypte et tout d'un coup, il est libéré, on réussit à se séparer de nos ennemis jurés, on devient les plus riches de la planète, que ce soit en sortant d'Égypte, que ce soit sur ce qu'ils ont ramassé sur le bord de mer. À la fin de la paracha, on trouve un ennemi qu'on n'a jamais entendu parler de lui, qu'on lui a jamais rien fait, qu'on n'est pas sur sa trajectoire, ni sur son terrain, ni une guerre de religion, mais quand même, il décide de vouloir attaquer le peuple juif, en montrant qu'ils sont pas si forts que ça. On peut les attaquer, c'est Amalek, et la Torah nous dit qu'est-ce qu'il faut faire contre lui. Mais en plein milieu, la Torah nous raconte cette histoire de la manne. C'était quoi l'histoire de la manne? Qu'est-ce qui se passait exactement? On est un mois exactement après la sortie d'Égypte. On a fini le manger qu'on a amené avec nous pour sortir d'Égypte. Chacun était parti avec un sac, avec des matzot, ce que vous voulez, avec à l'intérieur. Le matin, des latkes, si tu veux, des moufletot pour les Ashkenazes et des latkes pour les Tunisiens. Le matin du 15 Iyar, le peuple juif est resté sans pain, sans une gramme de blé, pain, il n'y avait absolument rien. On parle ici de millions de personnes, de plusieurs millions de personnes, hommes, femmes, enfants, qui n'ont plus de féculents, qui n'ont plus de céréales, ils n'ont absolument rien, sans rien. Et là, bien sûr, comme d'hab, le peuple juif commence à se plaindre contre Dieu. Et il commence à dire que à quoi ça sert qu'on est sorti d'Égypte. On avait le bonheur en Égypte, on avait les sushis, on avait les poissons gratuits, les concombres gratuits, on avait les algues, on avait bref. C'était le Club Med. Tout d'un coup, on arrive ici dans le désert, on n'a plus rien à manger. Dans la mémoire courte, tout ce qu'on a souffert. Ça va arriver après. Et Dieu, il décide de faire un miracle qui ne s'est jamais passé dans l'histoire. Et qui ne s'est jamais reproduit et qui ne se reproduira pas encore une fois. C'est quoi le miracle? Du pain qui tombe du ciel. Alors, prenons un instant, sortons de ce contexte. Prenons un enfant qui est né dans 5 ans. Combien de temps on était dans le désert? Combien de temps on était dans le désert? Dans le désert?
40 ans.
Dans le désert, on était 40 ans. Un enfant, il est né à la 5e année. La seule chose qu'il sait, c'est que quand il veut manger, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de frigidaire, il n'y a pas de congélateur, il n'y a rien. Il attend le matin, il a les pains au chocolat qui tombent du ciel, il a les croissants qui tombent du ciel, il a le fromage qui tombe du ciel. Ce qu'il veut tombe du ciel. Il a vécu comme ça pendant 35 ans. Il arrive maintenant en Israël, après 40 ans du désert, et les parents lui disent, c'est quoi mon cher enfant, maintenant qu'il a 35 ans. Lui raconte à ses enfants, il dit, écoute, tu veux quelque chose? Tombe du ciel. Et là, en arrivant en Israël, il lui dit, écoute, tu veux quelque chose? Va labourer la terre, va mettre une graine, attends que ça pousse, il faut qu'il pleuve, il faut qu'il y ait du vent. Attends que le blé, une fois que le blé a grandi, il faut commencer à moudre le blé, il faut commencer à en faire du pain. Et là, les enfants, ils disent, on n'a jamais vu une chose pareille. Nous, on a toujours su une seule chose, que tu veux quoi que ce soit, tu demandes, ça tombe du ciel. Et tout d'un coup, maintenant, il faut travailler dur. La paracha te dit, Dieu, il a fait ce miracle avec le pain qui tombe du ciel. Et Dieu, il a dit en deux mots, s'il n'y a pas de pain qui vient de la terre, il y aura du pain du ciel. Pendant 40 ans, le peuple juif était ce qu'on appelle Mesoudar. Il n'avait aucun casse-tête, aucun ennui. La seule chose qu'il savait, c'est quand il a besoin de quoi que ce soit, il n'a pas de ce qu'on appelle les soucis de la parnassa, ça tombe du ciel. Il vivait sur un compte en banque qui était plein, sans limite. A priori, ça a l'air d'être le plus grand des miracles qui a pu exister. Parce qu'on parle ici de s'occuper d'une personne qui ne s'est jamais passée avant, sans précédent. De donner à quelqu'un ce qu'il a besoin, sans jamais faire aucun effort de sa part. Sans aucun souci, sans aucun casse-tête. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de se rappeler de ce miracle. On n'arrête pas de se rappeler. Tout d'abord, on a tous les vendredis soirs et Shabbat. On a le Lechem Mishneh. On a les doubles pains sur la table pour se rappeler de la manne. Soit pour vendredi soir, soit pour Shabbat, se rappeler que la manne, le vendredi, il y avait double portion qui tombait. C'est pour ça qu'on a les deux pains Shabbat. On recouvre la chalotte avec une nappe pour se rappeler que la manne, quand elle arrivait, elle était aussi recouverte en haut et en bas. Donc apparemment, ça a l'air d'être le plus beau cadeau que Dieu lui a donné. Néanmoins, on va tout de suite voir comment la Torah elle-même, elle te dit que pas seulement que ce n'était pas un cadeau, c'était la plus pire des épreuves que le peuple juif a pu subir en Égypte, dans le désert. Pourquoi? D'abord, on voit comment Moshe lui-même, d'abord, quand Dieu lui fait savoir le miracle qui va se passer, qu'on va recevoir la manne, on voit que Moshe, à aucun moment, nomme la manne comme un cadeau. Nulle part. Tous ceux qui ont dit tout à l'heure que c'est un cadeau, certainement que c'est du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, c'est pas écrit une chose pareille. Moshe, à aucun instant, il te mentionne que la manne, c'était un cadeau. C'était pas un cadeau. Comment Moshe, il mentionne Naman, il appelle ça un Nisayon. C'est quoi un Nisayon? Un test, une épreuve. Est-ce que le peuple juif va rester attaché à Dieu malgré une telle souffrance de recevoir la manne? Regardez dans le chiffre 2. Chumash Shemot, chapitre 16, verset 4. Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe, Hineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Je te fais pleuvoir du pain du ciel. Le peuple devra sortir le récolter. Le mana nasenu afin de te tester, ayeler betoratim. De te tester pour savoir est-ce que tu vas suivre ma Torah ou pas. Depuis le départ, Moshe met la barre très haute. Il dit, vous êtes plein, vous avez eu des soucis, vous n'avez plus à manger, vous voulez que Dieu s'occupe de vous, il n'y a pas de soucis. Je vais vous faire tomber de la manne du ciel, du pain du ciel. Ce n'est pas un cadeau que je vous donne, c'est un test. Ça veut dire que la manne, en rien c'était un cadeau. Ce n'était même pas quelque chose, on va dire, qui a été du surplus. Il n'y avait rien d'autre, vous ne pouvez pas vivre sans ça. C'était une telle épreuve que Moshe dit, ça sera le test pour savoir si tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu. Ce que Dieu il a dit en quelques mots à Moshe, Moshe le répète dans le Chumash Devarim, chapitre 8, prochain paragraphe. Et Moshe, il te dit des mots qu'on n'a jamais entendu parler. Tu te rappelleras ce que tu as fait dans le désert pendant 40 ans. Le man à notre âle et notre sotra pour te tester et te faire souffrir. Pour savoir est-ce que tu fais ces mitzvot ou pas. Et Moshe rajoute, Vayahancha, Vayarivecha, Vayachilcha et Taman. Il t'a fait souffrir, il t'a affamé et il t'a donné manger la manne. C'est Moshe qui le dit, c'est pas moi. Moshe est en train de te dire que Dieu l'a envoyé la manne, c'était pas seulement un test. C'était pour vous mettre à l'épreuve, à une épreuve rude, à une épreuve difficile. En continuant, en disant, Hachel, est-ce que toi t'as pas connu, tes parents n'ont pas connu, etc. C'est-à-dire que Moshe lui-même te dit que la manne, pendant 40 ans, c'était une souffrance pour le peuple juif. C'est pas quelque chose de facile. Qu'on marchait de manière totalement affamée dans le désert. Et ça, c'est d'ailleurs les mêmes mots qu'ils ont été employés pour le jeûne de Kippour. Quand la Torah te parle du jour de Kippour, elle te dit qu'on a le devoir de jeûner le jour de Kippour. La Torah ne te dit pas comment jeûner, comment la hanot, comment, si on peut dire, se faire souffrir. C'est pas une souffrance, c'est juste se faire se priver. Peut-être ça veut dire qu'il faut recevoir 39 coups le jour de Kippour. De ça que Moshe, il a mis le mot la hanot, qui veut dire se faire, se priver. Par rapport à la manne, on apprend que Kippour, on se prive de manger pendant 24 heures. À tel point, c'est comparé avec cette souffrance, cette épreuve qui était la manne. Vous connaissez ce que dit la Gemara Yoma, page 74b, juste après. Verbe Ishmael était dit, Tanane Markan Inouï. Pour Kippour, c'est écrit le mot Inouï, Vénité Metafchetachem. Et dans la manne, c'est écrit Vayahantra, vous vous priverez. De la même manière que pour la manne, se priver voulait dire être affamé. Pareil, Kippour, okay, ça veut dire se priver de ne pas manger. Et de là, on apprend que Kippour, on jeûne et on se prive. Pourquoi? Parce que la manne, c'était aussi le fait de se priver, d'être affamé, de ne pas manger. À tel point, le cadeau qui était le cadeau de la manne. Dans la vérité, quand tu lis ça, tu ne comprends pas. On n'arrive pas à croire. Est-ce que c'est Dieu et Moshe qui parlent? Ou bien c'est Datan et Aviram, c'est les pires ennemis du peuple juif qui parlent? Comment on peut découvrir, comment on peut nommer le plus beau cadeau que Dieu il a donné au peuple juif pendant 40 ans dans le désert, en leur relevant les soucis de savoir de quoi manger tous les jours, comme un nisayon, un test, comme une épreuve, un rava qui veut dire être affamé, ne pas savoir quoi manger. Ce que j'ai demandé au départ, est-ce que c'était un cadeau ou est-ce que c'était une épreuve? Est-ce que c'était le plus beau cadeau? Quand j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, pendant les prochains 40 ans, tu n'as plus besoin de te soucier à gagner ta vie, pas besoin de recevoir de salaire, tout ce que tu as besoin, tu l'as. Qui ne veut pas un tel cadeau? Qui refuse un tel cadeau? Qui n'est pas content, qui n'est pas reconnaissant face à un tel cadeau? Et là, la Torah, elle te dit que c'était la plus pire des épreuves. Pourquoi? Qu'est-ce que tu disais?
Alors, moi, je veux bien que ce soit une épreuve. Si tu vois tous les jours que tu as ce miracle-là, pourquoi c'est une épreuve?
Alors, on va tout de suite voir. On va tout de suite voir c'était quoi le gros problème qu'on avait avec la manne. Mais justement, mais avant ça, quand j'ai dit aujourd'hui, je t'enlève tous tes soucis. T'as plus besoin de travailler. Même si tu travailles, t'as aucun casse-tête, aucun ennui. Tout ce que tu veux, tu reçois. Gratuitement, sans effort. Pourquoi la Torah le décrit comme un tel test? Affamer une personne. Au final, tu veux manger, tu as tout ce qu'il faut aujourd'hui. Il te manque rien. Pourquoi décrire ça de manière si difficile et si dure? Quel est le test?
On dépend de Dieu.
Hein? C'est-à-dire que sans ça, on ne dépend pas de Dieu.
Oui, mais là, c'est vrai. Si Dieu, il n'en voit pas.
Dans ce que vous venez de dire, vous avez dit la question et la réponse. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avant de recevoir la manne? Comment s'appelle madame?
Déborah.
Madame Déborah. Avant ses 40 ans, avant qu'on ait plus quoi manger, on ne dépendait pas de Dieu.
On dépendait des Égyptiens.
On n'est pas en Égypte. Vous pensez sincèrement qu'on dépendait des Égyptiens? Pendant le mois qu'on est sorti d'Égypte, qu'on avait amené à manger avec nous, et jusqu'à la minute où on n'a plus rien à manger, on dépendait de qui? Alors qu'est-ce qui a changé avant et après?
C'est la
mutuelle qui prend en charge.
Le reste à charge.
Quelle différence entre avant et après?
Ils sont plus sentis en sécurité.
C'est-à-dire que pendant un mois qu'ils avaient qu'ils avaient à manger.
Mais quand ils ont pu la mettre, ça a été de confiance en.
Quel est mon accord une fois? Pendant un mois, vous avez amené à manger. Vous êtes parti en vacances à Dubaï. Vous êtes parti dans le désert. Vous avez amené à manger avec vous pour 2 semaines. Vous êtes d'accord? Pendant ces 2 semaines, vous avez à manger tout ce que vous voulez sur Terre. C'est terminé les 2 semaines, on vous fait savoir que le vol il est annulé, vous devez rester encore 2 semaines sur place. Vous êtes dans le désert, il n'y a rien à acheter. Qu'est-ce qui se passe? On vous dit à partir d'aujourd'hui, regarde le ciel, ça va tomber du ciel. En quoi il y a une différence entre les 2 premières semaines? Pourquoi le libre choix? Oui, mais je parle par rapport au manger. Qui vous a donné à manger pendant 2 semaines?
Ben nous-mêmes.
C'est Dieu, les premières 2 semaines. Mais c'est vous qui avez amené. Mais c'est Dieu.
Non.
Ben elle a dit oui.
Ben non.
Ok. 2 semaines après, il n'y a plus rien. C'est qui donne à manger?
Dieu.
Je prends un exemple. On a ici, monsieur, comment s'appelle ton repère?
Israël,
comment ça va, famille? Boissira. Voilà, monsieur Boissira, que Dieu le garde en longue vie, en bonne santé parmi nous, qui a des lunettes sophistiquées. Je suis aumônier des prisons et aumônier des hôpitaux. Et je vous raconte que tous les jours, dans les visites que je fais, toutes les semaines, dans les différents hôpitaux, dans les prisons, je raconte ça régulièrement. Quelqu'un qui ne voit pas comment des gens souffrent ou comment des gens vivent de ce que nous on appelle pas normal, ne comprend pas le cadeau qu'on a quand on se dit que ce qu'on vit c'est normal. Je vais prendre un exemple. Je parlais il n'y a pas longtemps avec une jeune fille qui me disait, c'est j'arrive pas à croire que plus j'avance dans la religion, plus Dieu m'envoie des claques. Ok, c'est un discours qu'on entend de pas mal de personnes. J'ai dit, je sais pas pourquoi tu dis que Dieu envoie des claques, moi je connais pas un Dieu qui envoie des claques. Mais elle me dit, regarde, j'ai fait tel et tel effort, j'ai fait telle et telle chose, et je me suis pris telle épreuve, telle difficulté. Je dis, moi je te vois, je te connais pas. Mais à l'apparence, tu m'as l'air 100% normal. Elle fait, mais j'ai que des soucis. Je viens, on commence à parler. Ta tête, je tu as 2 yeux? Je fais oui. Je tu vois des 2 yeux? Je fais oui. Que tu entends des 2 oreilles, fais oui. Je fais, tu parles de la bouche, normal. Le nez, tu respires. Je dis, viens, on s'arrête là. Je sais combien de gens sur Terre ne voient pas des 2 yeux. C'est combien de gens sur Terre n'entendent pas des 2 oreilles. C'est combien. Si ça, c'est un dû, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Je vous raconte une histoire. Tout le monde sait qu'au Beth Rabat, on a la mission Solidarité Israël. Depuis 19 ans, on amène les tefillines aux soldats, que ce soit les blessés, que ce soit. Un bon temps, quand dans les temps difficiles, comme on était il y a un mois, juste après le début de la guerre, sur 4 bases militaires à la frontière de Gaza. En août 2014, j'étais avec Tzouk Eitan. C'était une fois qu'on était rentré dans Gaza, une parmi les dizaines de fois qu'on est rentré. Malheureusement, il y avait la même histoire avec les D9 de Tzahal qui devaient déterrer les tunnels du Hamas à l'époque, en 2014. Et on a donné des tefillines aux soldats. Un jour, on était là pour leur donner les tefillines. Un jour, c'était pour visiter les malades, les soldats blessés, pardon, à Shibat el-Hashomer, au centre d'Israël. Je suis parti voir un soldat de 42 ans qui a entendu qu'on offrait des tefillines. Il a dit, je voudrais absolument avoir ma paire de tefillines parce que Dieu m'a gardé en vie. Sa phrase, Echayitani. Vous pouvez voir sur le site du Beth Rabat, 77, vous avez l'histoire. Je rentre dans la chambre. Il y avait sa femme à côté avec 2 enfants. Je lui dis, c'est quoi ton histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, j'étais sur un D9. D9, c'est les Darpor, c'est les bulldozers de Tzahal, qui viennent déterrer les tunnels, je parle en 2014, qui font d'ailleurs ça aujourd'hui aussi. Et il m'a dit, j'ai reçu un missile sur moi. Quand je suis dans la box du bulldozer, qu'est-ce qui est protégé? J'ai la tête qui est protégée avec un casque. J'ai le gilet pare-balles ou peu importe la protection qu'il y a sur le corps. Les seules choses qui ne sont pas protégées, c'est les 2 mains et les 2 pieds. Il n'y a pas de protection pour ça. Et c'est ce qui est parti. Il a perdu les 2 pieds en plusieurs dizaines de morceaux, les mains aussi. Quand moi je suis arrivé à le voir, dans le visiter, il avait déjà passé 5 opérations pour récupérer les mains. Et pour les pieds, il devait avoir des prothèses. Mais non, c'est pas fini. Il est devenu sourd d'une oreille à 100% à cause de l'éclat et du bruit. Il a gardé une oreille 50%. Les yeux, je ne sais pas où il en tenait. Et quand je rentre dans la chambre, il me dit avec un grand sourire à ma main, Dieu m'a gardé en vie. Si je m'en sors et je réussis à remarcher sur des pieds, je vous promets, je mets les tefilines tous les jours. Grâce à Dieu, 3 ans plus tard, on l'a rencontré au côté sur des prothèses. Il était sur les prothèses en train de marcher, il met les tefilines tous les jours depuis, etc. Mais pourquoi je raconte ça? C'est quand lui, il m'a dit, Dieu m'a gardé en vie. Alors qu'il a perdu les deux mains, les deux pieds, une oreille à 100%, il lui reste une oreille à 50%, et il est content. Il s'est dit, aujourd'hui je suis là, j'aurais pu ne pas être là. Comme malheureusement, tous ces plus de 550 soldats qu'on a perdus depuis le 7 octobre. Quand quelqu'un de normal, qui se considère normal, parce qu'il a deux yeux, il a deux oreilles, il s'est dit, tout va bien. Je repense ce que disait Déborah tout à l'heure. Quand j'ai amené à manger avec moi, oui, les Égyptiens, c'est moi qui l'ai amené. Le moment que je n'ai pas amené, c'est maintenant à Dieu de se soucier. Mais la réalité, elle est qu'avant et après, c'est le même bon Dieu qui m'a donné avant. Et le même bon Dieu qui décide de me donner d'une manière différente. Mais il n'y a pas de différence entre avant et après. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Si c'est comme ça, pourquoi la Torah, elle considère la manne si dure comme une telle épreuve? Qu'est-ce qu'il y a de mal? La question que je demande, ce n'est pas ma question, c'est la question que Don Yitzhak Ababanel, vous pouvez voir à l'intérieur, le demande le fameux ministre des Affaires, ministre des Finances en Espagne, avec un très très beau commentaire sur la Torah, sur le Chumash, et le Ora Chaim, Rabbi Chaim Ben Attar, marocain je pense, qui est aussi un des grands commentateurs sur la Torah. Les deux demandent la même question. Vous voyez dans le texte, celui qui a la feuille, « Man Yisayon, c'est quoi cette épreuve ?» En leur donnant à manger quelque chose tous les jours. Au contraire, c'était Chesed Gadol, c'était la plus grande bonté. Ce n'était pas un test, ce n'était pas une épreuve. Pourquoi la Torah, elle en fait de ça comme quelque chose de misérable? C'était un cadeau de savoir, j'ai rien à faire. Je reçois tous les matins du ciel en abondance. Merci, la vie est belle. Pas besoin de prendre la tête. Le Rachaim te demande. Ça a l'air de dire, d'après ce qu'on lit dans la Torah, que la manne, c'était malheureux. C'était vraiment à en souffrir de recevoir quelque chose tous les jours. Que c'était à affamer les gens. Et le Rachaim te dit, je comprends pas. La Torah te donne des louanges sur la manne. Il y en a même qui ont l'habitude de lire la paracha de la manne tous les jours. Qu'est-ce que tu en fais de ça, un monde? Exact. Comment tu peux me faire, dans la Torah, me faire passer la manne comme la plus pire des épreuves? Qu'est-ce qui a tellement de mal? Au contraire, comme je te dis, pendant 40 ans, nourri, logé, gratuitement, sans effort, sans bouger un doigt, tu reçois ce que tu veux du ciel, la vie est belle. Tout le monde voudrait avoir ça. En quoi c'est quelque chose de tellement difficile? La réponse. La réponse que la Torah nous donne, on va voir ce que le Rambam Nachmani nous donne comme réponse. Une réponse qui est tellement riche. Qui te répond que peut-être la manne donnait à manger. Mais qu'est-ce qui manquait dans la manne?
L'effort.
Il manquait une chose.
La forme.
L'effort. Disons que tu ne voyais pas. L'effort, quelque chose de plus. Il manquait une chose. La difficulté. La difficulté, non. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui était le point noir de la manne? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui n'allait pas dans la manne?
C'est gratuit.
Gratuit, plus que ça. Bitachon. Il manquait une seule chose, la stabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, la stabilité? La manne remplissait le ventre, mais vidait l'âme. Aller dormir ce soir, sans savoir ce que je vais manger demain, c'est pas facile pour qui que ce soit.
Mais au bout d'un jour, ok, le premier jour, le deuxième jour, au bout de 10 jours, je sais que ça va tomber demain.
D'où tu sais?
Ah, je suis habitué.
Mais quand même, c'est ce que je te dis. Qui tu peux te garantir entre moi et toi ici ce soir qu'on va se réveiller demain matin? On n'a aucune garantie.
Tu te poses la question le matin?
Tous les jours.
Tu te poses la question le soir?
Tous les jours. Tous les jours. Et c'est la raison pourquoi tous les matins on dit. Pourquoi tous les matins tu dis mois dernier?
Je le dis, mais.
Pourquoi c'est pas une routine?
C'est pas vrai, je pense pas.
Pourquoi tu penses pas? Tu sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas réveillés ce matin.
Malheureusement, mais je me pose pas la question, je me dis pas, je vais pas
faire habituel ça.
Mais on n'a pas la certitude. On n'a pas cette certitude.
Il faut se mettre dans la position où on n'a pas la certitude. Mais
c'est ce que la Torah nous fait. Alors on arrive, on arrive.
C'est pour ça qu'on dit que c'est un miracle, non?
La manne descendait, la Torah te dit Midei Yambeyomo chaque jour. Ça veut dire que d'un côté, il y avait cette abondance qui tombait du ciel, etc. Mais le deuxième, le côté, c'était quoi? C'est qu'il n'y avait aucune certitude. Il n'y avait aucune tranquillité. Il n'y avait aucun moyen d'être garanti qu'elle allait tomber le lendemain. Avec la manne, Dieu n'a pas seulement donné la manne. Il y avait un ordre de Dieu qui tombait dans la manne. C'était quoi cet ordre? À condition que vous la terminez ce soir. C'est-à-dire que je te donne tout ce que tu veux, mais il faut que tu la termines ce soir. Tu n'as pas le droit d'en laisser pour demain. Et celui qui laissait quelque chose pour demain, c'est pour essayer. C'est même pas si tu voulais être malin. Te dire, je vais en mettre dans le congélateur, je vais en mettre dans le frigidaire, il n'y a pas. La Torah, elle te dit, c'est où tu manges tout ce soir, sinon tu n'en as pas pour demain. Et ça, c'est ce qui est incompréhensible. Pourquoi Dieu a dû donner un tel devoir? Pourquoi Dieu a dû te dire?
Je
vous ai servi. Faut pas que je sois en train de me servir. C'est à toi. Merci. C'est à toi là-bas. Comment ça se fait que Dieu d'un côté te dit recevez la manne, mais à part recevez la manne, tu ne dois pas en laisser pour demain. Qu'est-ce qui dérange qu'il en laisse pour demain? Qu'est-ce qui dérangeait Dieu de se dire je garde un morceau pour demain? Pourquoi pas en garder pour demain? Quoi c'est? Mais encore une fois, pourquoi lui mettre une telle épreuve? Déjà, je ne sais même pas ce que je vais manger demain. Ça dérange vraiment que je garde quelque chose pour demain? Tout d'abord, on sait très bien que aucune personne sur Terre peut se rassasier aujourd'hui s'il doute du lendemain. C'est une règle, comment Dieu l'a créé l'humain. Tu ne peux pas être plein aujourd'hui si tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Si tu ne sais pas ce que tu vas avoir demain, tu ne vas pas être plein aujourd'hui. Tu as un problème avec. On sait qu'il y a le fameux psychologue juif qui s'appelle Abraham Maslow qui a mis cette échelle, cette pyramide des besoins. Et il te dit que la première des choses que quelqu'un doit avoir dans la vie, c'est cette certitude, cette survie, et savoir, être garanti qu'il va s'en sortir. La plus pire des choses qui se passent avec nos otages aujourd'hui, dans les tunnels du Hamas, c'est qu'ils ne savent pas s'il fait jour, s'il fait nuit, quelle est cette certitude, est-ce qu'ils vont vivre demain, est-ce qu'ils vont avoir quoi manger demain, est-ce qu'ils vont sortir demain. La plus pire des choses qui peut arriver à un être humain, c'est quand tu enlèves ce socle, cette stabilité, cette certitude de savoir que demain tout ira. Peut-être que je n'aurai pas le même manger qu'aujourd'hui, mais j'aurai quelque chose, je ne serai pas sans rien. Tu as besoin d'avoir cette stabilité. Et une personne, en général, organise sa vie d'une manière qu'il a une certaine protection, une certaine certitude, une certaine tranquillité, peu importe quel niveau, peu importe comment. Il sait ce qui va se passer demain et après-demain, il n'a pas peur de surprise. C'est vrai que la manne donnait énormément à manger à tout le monde. Mais la manne, elle a enlevé cette indépendance et elle a enlevé cette stabilité. Parce que chaque nuit, tu n'étais pas censé savoir ce qui va se passer demain. Et tu n'avais aucune certitude que demain matin, tu vas recevoir la même chose. Aucune garantie. Même si, comment tu t'appelles?
Bézalel.
Le rabbin Bézalel a dit qu'on était habitué. Le rabbin Bézalel a dit qu'on était habitué. Personne, les gens ne savaient pas. Personne ne savait. Maintenant, regardez ce que le Ramban nous dit dans Dvarim, Nachmanid, Rabbi Moshe ben Nachman. Vapirach, tu veux parachat, ta manne, il te dit la raison pourquoi la Torah, elle appelle ça, que c'était pour le mana notra, pour te faire souffrir, te tester. Ki ayan, isayan gadol. C'était un énorme test, une énorme épreuve. D'aller dans le désert, ve'en be'adam, klou minaman, il n'y avait rien dans la main à part la manne. Maintenant, hier et dva, yom be'yomo. Il devait tomber chaque jour, et au final, le soleil pouvait pourrir la manne. Et on avait tellement faim. Je n'étais pas garanti qu'on allait avoir quelque chose demain. Alors, quel était le but derrière? Pourquoi Dieu cherchait à avoir fait un tel test de te dire, je te donne tout ce que tu veux que pour aujourd'hui. Rien demain. C'est ce qu'on arrive? Qu'est-ce que Dieu cherchait avec? Qu'est-ce que ça dérangeait à Dieu si on allait mettre quelque chose, on allait garder dans la terre, congélateur s'il y avait à l'époque? Et là, on comprend la réponse. Que la manne, parachat cette semaine, c'était le meilleur séminaire pour former le peuple juif au bitachon. Ça, c'était la raison pourquoi Dieu a fait une chose pareille. Dieu ne cherchait pas à donner du pain, parce que si vraiment Dieu cherchait à donner du pain aux gens, à leur donner à manger, il y avait mille et une façons de le faire. Il peut y avoir des passants qui passent, des charrettes qui passent, des pays voisins. On pourrait trouver mille et une manières comment pouvoir nous donner du blé, du pain, du manger, pas obligé de faire tomber du pain du ciel. La manne était pour faire, justement, prendre conscience au peuple juif qu'on veuille ou pas, on dépend de Dieu. Et vaut mieux le vouloir que ne pas le vouloir. Vaut mieux dépendre de Dieu que de quelqu'un d'autre. Chaque nuit, on allait dormir avec le frigidaire vide. Et quand un enfant il demandait à ses parents, « Manochal, qu'est-ce qu'on m'a demandé de manger demain matin ?» Le père, il répondait, « Celui qui s'est soucié pour nous aujourd'hui, se souciera pour nous demain. » Le bon Dieu. On n'est pas arrivé ici par nos propres forces. Et on ne continuera pas dans cette route avec nos propres forces. Et comme ça, c'était la meilleure école pendant 40 ans. Il suffit de voir la situation en Israël depuis 3 mois. Je parle dans tous les cours. Il n'y a pas un pays sur Terre qui peut se faire attaquer par 6 pays, presque quotidiennement, et qui continue à survivre comme si rien n'était. Des mariages, des smachot, des gens ils sont en vacances, des gens ils voyagent. Et ça, c'est la plus pire des choses que nos ennemis n'arrivent pas à comprendre. Et c'est pour ça que nos ennemis sur les 4 coins du monde, depuis l'Amérique jusqu'à la France, parmi les 4 coins de la planète, se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Où il ne s'est rien passé le 7 octobre? Où ces gens, ce sont des extraterrestres? Mais quel pays s'est fait attaquer par des missiles de 6 fronts, presque toutes les semaines? Presque tous, c'est venu la norme. et la vie continue. Et on est tellement habitué à vivre avec cette protection divine que c'est la norme. Mais la réalité, elle est que si on n'a pas cette protection, aussi bien que les soldats essaient de faire le maximum, Israël disparaît depuis longtemps. Depuis 3000 ans d'histoire, pas depuis le 7 octobre ni 80 ans, depuis 3000 ans d'histoire, la Torah nous dit les yeux de Dieu protègent Israël du début de l'année à la fin de l'année. Il n'y a pas de logique derrière. Israël est capable aujourd'hui d'envoyer des missiles ou d'envoyer des attaques ciblées en Syrie, au Liban, dans les quatre coins qui sont loin d'Israël, à un kilomètre de la frontière de Gaza. On n'est pas capable de trouver où sont les otages. Où trouvent... Il n'y a pas de logique. Mais une chose on sait, Dieu nous protège. Dieu nous protège depuis 3000 ans et continue à nous protéger tous les jours. Alors oui, malheureusement aujourd'hui on a eu 24 soldats qui sont tués. Malheureusement, on a vu ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais ça ne vient pas remettre en cause en aucun cas, et c'est ce qu'on a parlé hier soir, dans le cours, qu'on doit poser des questions. On a le droit de poser des questions, mais mettre en doute un instant que Dieu nous protège. Chaque instant, Dieu nous protège. Et on voit cette protection dans les quatre coins du monde, et les gens ne comprennent pas c'est quoi ce pays qui vit de manière surnaturelle, avec une telle protection divine, et qui continue à agir comme si rien n'était. Et c'est pour ça qu'on fait vivre la manne à travers le repas de Shabbat, à travers le chalot. C'est pas juste pour se rappeler que Dieu nous a donné du pain, mais c'est pour se rappeler que c'est pas à nous de courir derrière la parnassa. Bien sûr qu'il faut faire tous les efforts que chacun doit faire en fonction des dons que Dieu lui a donnés dans son domaine, dans sa façon d'agir, dans sa manière d'agir, en respectant bien sûr la halakha, mais ne pas oublier qu'on a un autre partenaire dans les affaires. On n'a pas seulement un autre partenaire, on a le partenaire essentiel qui est responsable de notre vie. C'est lui qui nous a fait vivre jusqu'à présent, c'est lui qui continuera à nous faire vivre éternellement. Regardez comment le Midrash nous dit ça. Midrash dans le Mechilta, vous avez ça en bas avant la page chiffre 3. Il te dit ça de la manière la plus claire et la plus nette. C'est bien d'accrocher ça dans les frigidaires. Vayetzer ha'am balaktut va'imomo. Qu'est-ce que ça veut dire que le peuple est parti ramasser la manne tous les jours? Il te dit la phrase suivante. Pour te rappeler, Shemi shebara yom bara parnasato. Celui qui a créé le jour a créé ta parnasa. De là, Rabbi Eliezer Amoudai, il disait Kol mi sheyesh lo ma yochal hayom ve'omer ma ochal lemachar. Tout celui qui a de quoi manger aujourd'hui et qui ose demander la question qu'est-ce qu'on va manger demain, il fait partie de ceux qui sont mechoser emuna, qui ont un manque d'emuna. Pourquoi? Parce que la Torah te dit par rapport à la manne, le man anaseinu ayel abatoratim. Est-ce que c'était pour te tester, pour savoir est-ce que tu crois vraiment en moi ou pas? Est-ce que vraiment tu as confiance en moi ou pas? C'est très facile de dire on croit tous en Dieu. On a tous confiance en Dieu. Mais comme on dit tachlis, concrètement, quand il y a un souci, est-ce que tu dis laisse-moi me débrouiller tout seul? Je vais aller voir l'avocat, je vais aller voir le médecin. Bien sûr qu'il faut aller voir l'avocat et aller voir le médecin. Et c'est ce que Dieu attend de nous de faire. Mais pense pas un instant que c'est l'avocat ou le médecin qui va faire en sorte que tu en sortes de ton souci. C'est Dieu qui envoie la bracha à travers l'avocat et le médecin. Mais c'est au final Dieu qui est le responsable de tout ce qui se passe. Regardons une des coutumes qu'on a le soir du Seder. Si Dieu veut dans 3 mois, on a l'habitude de cacher la ficomane et de la ressortir juste après. Au début de la nuit, on prend la matzah du milieu, on casse la matzah en deux. Et on a l'habitude de cacher une moitié et à la fin on la ressort. Maintenant la question que tout le monde demande, si le but c'est de la manger, pourquoi tu la caches? Si le but c'est de la cacher, pourquoi tu la ressors? C'est quoi ce jeu? Alors bien sûr, est-ce qu'on répond à chaque fois pour que les enfants soient réveillés, pour que les enfants demandent des cadeaux, etc. Laisse la matzah sur la table, que c'est plein de la cacher ou quoi que ce soit. Et l'idée elle est quoi? Qu'au début du seder, on est comme des esclaves qui s'enfuient du patron. Et en général un esclave c'est quoi? Il met toujours de côté de peur qu'il n'y a pas avoir demain. Je raconte à chaque fois quand j'étais en Russie, en Ukraine, juste après le communisme en 94. En été 94, j'étais plutôt en ville en Ukraine et j'organisais des offices dans une synagogue à Jetomir. 4 ans après le communisme. On avait l'habitude de demander aux gens qui venaient à la synagogue qu'on leur offrait un repas le matin. Ils n'avaient pas quoi manger toute la journée, des gens qui venaient, ils n'avaient pas vraiment quoi vivre. Tous les matins, il y avait un repas sur la table et ça, c'était une manière de motiver les personnes âgées à venir au minyan tous les matins. Moi, j'étais l'officiant. Il y avait 100 de personnes dans la synagogue. Le repas était prêt dans la cuisine. Les gens, ils avaient des sacs. Si ça existait, un sac plastique, ils avaient pendant tout le temps. Quand je tournais la tête, ils mettaient les pommes de terre dans les sacs. Ils mettaient les, qu'on appelle ça, il y avait les céréales, le cash, on dit ça, le sarrasin dans les sacs. Ils avaient tellement peur. Va savoir si je vais venir demain. Au moins, je puisse avoir de côté. Avant de commencer à manger, au moins, j'ai quelque chose pour demain. Ça, c'est le sentiment de quelqu'un qui est soumis, quelqu'un qui est un esclave, qui met de côté pour demain. C'est ce qu'on fait au début du seder. Maintenant, on sait très bien combien tous ceux qui ont eu la chance de survivre les camps de concentration. Ma grand-mère est sortie du camp de Dachau. Ma mère est née à Pocking en Allemagne. Et qui raconte comme quoi tous ces gens qui avaient une portion journalière, ils n'osaient pas la manger en entier parce qu'ils se disaient, on ne sait pas ce qu'on aura demain. préférait essayer de la garder, de la mettre de côté presque comme la main, sauf que parfois on le surprenait et recevait des coups pour ça. Pour pouvoir se dire, puisque je ne sais pas de quoi elle fait le lendemain, je préfère mettre de côté. Mais à la fin du Seder, on est déjà, on vient de lire tout ce qui s'est passé avec les bontés que Dieu a fait envers nous. Dieu nous a fait sortir d'Égypte, traverser la mer, etc. Là, on est prêt à ressortir la Ficomane à nouveau en disant, on n'a plus besoin de garder. On n'a plus besoin de mettre de côté. Là, on est sûr, on est garanti que Dieu s'est soucié pour nous jusqu'à présent, continuera à se soucier pour nous. Ça, c'est ce qui se passe lors du Seder. Revenons alors avec la paracha de cette semaine. Reviens à la question qu'on a dit tout à l'heure, qui est, tout ça, c'est un beau discours. Mais d'où on peut obtenir ce bitachon? Comment chacun d'entre nous peut travailler sur soi pour se dire, je peux avoir cette certitude? Quelqu'un qui veut tout faire pour se dire, j'ai envie d'avoir confiance en Dieu. Mais se dit, comment avoir confiance? Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, la simple question que chacun se demande, qui dit que Dieu me doit quoi que ce soit? Peut-être que Dieu, il a un autre plan pour moi. Peut-être que moi, j'ai le plus grand bitachon. Mais Dieu, il a prévu autre chose. Et j'ai aucune certitude que parce que j'ai bitachon, pour ça, je vais recevoir ce que Dieu m'a prévu. Et pour ça, la réponse, elle est ce que notre cher ami le Rav Aharon, il a dit qu'il a appris Chovat Alvavot. C'est celui qui a quelqu'un, il a appris ici Chovat Alvavot, cher Rabbi Tachon. Quelqu'un a appris ici Chovat Alvavot une fois? À part. Non? Chovat Alvavot vient de dire dans cher Rabbi Tachon, il explique c'est quoi? C'est que tout celui qui pense que Bitachon veut dire il faut avoir confiance, mais à condition que j'ai fait ce qu'il fallait, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire avoir Bitachon. Ceux qui osent dire aujourd'hui les plus grosses bêtises, que puisqu'il y avait un manque d'union en Israël le 6 octobre, et puisque la Cour suprême se battait le 6 octobre pour savoir si on a le droit de faire la kafa de Simchat Torah ou pas, pour ça il y a eu ce qui s'est passé le 7, s'il prend pour Dieu et il parle à la place de Dieu. Comment quelqu'un peut oser dire que Dieu est là pour punir son peuple? Comment quelqu'un peut oser dire que quoi que ce soit qu'il arrive, c'est une punition? Nous, on comprend les chemins de Dieu. Nous, on connaît ce que Dieu, il agit sur terre, on sait comment Dieu, il agit sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire, Bitachon? Bitachon, c'est d'être garanti que peu importe ce qui se passe, je sais que ce qui va se passer, ça sera forcément le bien. Bitachon ne veut pas dire que j'ai un Bitachon, que je sais que mon plan va s'accomplir. C'est le fait de se dire que ce que Dieu va faire, c'est la meilleure des choses qui peut se faire. Alors bien sûr, vous allez dire quoi, le 7 octobre, c'est bien ce qui s'est passé? 100% non. La Torah elle-même te dit que quand le peuple juif souffre, Dieu, il souffre avec nous. On dit ça dans tous les haftarahs de Ta'anit Tzibour, de jeunes publics. Bechol tzaratam lotza. Qu'à chaque fois que le peuple juif souffre, Dieu, il souffre avec nous. Dieu, Shrinta Begalut al-Azor, te dit que la Shrina, la divinité, elle est en exil avec nous. Mais au final, c'est trop facile de vouloir dire, oui, où était Dieu? Fameuse question que Elie Wiesel a demandé une fois au Rabbi, en 1965, après la Shoah. Elie Wiesel est sorti de Buchenwald. Il ne voulait pas se marier. Quand il a rencontré le Rabbi a dit que s'il ne va pas se marier, il va donner une deuxième victoire à Hitler. Du fait que, pas seulement qu'il a tué l'âme du peuple, le corps du peuple juif, il a tué aussi l'âme, il n'y a pas de continuité. Il s'est marié, il a eu un enfant, le jour de son mariage, il a reçu un bouquet de fleurs du Rabbi. Le jour de la bat mitzvah de son fils, qu'il a appelé sur le nom de son père Elisha, il a reçu aussi un bouquet de fleurs de la part du Rabbi. Il a eu des longs débats avec le Rabbi sur la Emouna, sur la foi en Dieu. Et une fois, il regarde le Rabbi en disant, où était Dieu pendant la Shoah? Où il a disparu Dieu le 7 octobre? Et l'Abbé qui réfléchit un instant, il le regarde sérieusement. L'Abbé, il a souffert pendant la Shoah, comme Elie Wiesel, comme beaucoup d'autres. C'est très bien qu'un des frères du Rabbi, Dovber, a été tué par les nazis en Ukraine. Son père a été exilé en Sibérie, au Kazakhstan. Lui-même, il a dû s'enfuir en France. Il était là de 1933 à 1941. Il est passé sous les bombes d'Hitler. Il devait partir d'un endroit à l'autre, à Vichy, à Marseille, à Nice. Il a presque raté le dernier bateau qui sortait après du Portugal pour pouvoir s'enfuir, tous ceux qui connaissent l'histoire du Rabbi. Donc l'Abbé lui dit, et en qui tu veux qu'on connaisse en confiance? Est-ce que tu veux qu'on croit en l'homme? Est-ce que tu veux croire en l'humain? La question qu'il lui demande, où était Dieu? C'est comme si, pourquoi Dieu nous a abandonné? Il fait au contraire, bien sûr que Dieu était présent. Alors encore une fois, je ne vais pas vous lire dans les 8 pages de la lettre, mais l'Abbé lui dit que pensez un instant que le monde ne fonctionne pas comme Dieu décide. Bien sûr que le monde fonctionne comme Dieu décide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses que l'humain est fautif. Et l'ami qui rentre dans une longue discussion en lui disant, ces mêmes personnes qui étaient là pour défendre les droits des chats, les droits des chiens, les droits des animaux, étaient capables même soir, après avoir gazé 12 000 enfants, s'asseoir en jouant du Mozart, en faisant comme si rien n'était, mais qui se battaient pour les droits des animaux. C'est sur ces gens-là que tu veux t'appuyer. C'est sur ces gens-là que tu veux dire qu'on a confiance en eux. Heureusement qu'on a Dieu sur qui s'appuyer. Chovat Alvavot te dit la phrase suivante, le chiffre 3. Cher Bitachon, premier chapitre. Qu'est-ce que ça veut dire, Ma'ot Bitachon? C'est quoi le Bitachon? Imnuchat Nefesh Aboter. C'est d'avoir cette certitude, cette tranquillité de la personne qui a confiance en Dieu. Chez Libos Amour, qu'il puisse s'appuyer sur Almi Shebatach Alav. S'appuyer sur celui sur lequel il a confiance. Chez Yaseh Atov Anachon. tu fasses ce qui est le meilleur pour lui. Qui veut dire, ça ne veut pas dire que Dieu fasse ce qui est mieux que moi je pense qui est bien pour moi. Bitachon veut dire que j'ai 100% confiance en Dieu, que Dieu il sait exactement ce qui est la meilleure des choses pour moi, et il sait ce qu'il faut faire. Et il sait que n'importe quelle chose qu'il va faire, ce sera la meilleure des choses pour moi. Alors a priori, il n'y a pas de différence entre Emouna et Bitachon. Bitachon, c'est un niveau plus élevé qu'Emouna. C'est pas seulement que le monde est géré par Dieu. Bitachon, ça te donne aussi cette certitude et cette joie. Être enthousiaste, être heureux, de se dire que je sais que je suis guidé par la personne qui est Dieu, la plus sûre sur terre, sur laquelle je peux m'appuyer, pas sur un être humain. En hébreu, comment on appelle un souci? Comment on dit un souci en hébreu?
Teagot.
Exact. Ça, c'était comment ton prénom? Le Rav Betzalel vient de dire qu'un souci, on dit Deaga. Deagot, c'est un souci. Comment on écrit Deaga? Dalet, Aleph, Gimel, E. C'est Aleph, Gimel, Dalet, E. Qu'est-ce qui manque? La lettre bête. Le monde a l'habitude de dire, quand il manque le bitachon, on a des soucis. Quand tu n'as pas le bête, tu as le Aleph Gimel, c'est mignon, non? Mais ce n'est pas seulement mignon, c'est réel. C'est plus que mignon. C'est la réalité. C'est ce que la Torah te dit. D'où on le sait? L'Agmara Brachot. L'Agmara Brachot, page 60b. Il raconte la fameuse histoire que tout le monde connaît, que le Rabbi ramène à l'écouter Sichot 2, page 393. L'histoire de Rabbi Akiva. C'était quoi l'histoire de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva qui était dans une route, qui était dans la route, elle est partie pour là se faire inviter dans une maison. Et à chaque maison qu'il a tapé à la porte, on lui a dit non. Il a dit la fameuse phrase, « Kol David Rachaman al etav avit. » Tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Il est parti dormir dans la forêt. Avec lui, il avait un coq. Avec le coq, il avait un âne. Et il avait une bougie. Est venu le vent, il a éteint la bougie. Un chat est venu, il a mangé le coq. Un lion est venu, il a dévoré l'âne. Eh bien, qui veut la répéter ?« Kol David Rachaman al etav avit. » Tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Dans la nuit, ils sont venus des bandits pour essayer de cambrioler le village. Et Rabbi Akiva a dit, je ne vous ai pas dit que Kol David Rachaman al etav avit, que tout ce que Dieu a fait c'est pour le bien. Si je serais resté dans la ville et j'aurais été accueilli par les gens de la ville, et la lumière elle aurait éclairé, et le chat il aurait fait du bruit, et l'âne il aurait crié, va savoir où j'aurais été aujourd'hui. Quelle est cette approche de Rabbi Akiva? C'est un extraterrestre? Qu'est-ce qu'il y a? Il se pense vraiment, il pense à un instant à ce qu'il est en train de dire. La vie est belle, il se fait jeter dans la rue, il n'a pas où dormir, il va dormir dans la forêt, il dit, ce que Dieu a fait c'est pour le bien. C'est quoi cette approche? D'où il sort avec un tel bitachon? Et la réponse, elle est que même si le plan final se passe différemment de ce que j'ai prévu, lui, il avait prévu de pouvoir dormir dans la ville. Il n'avait pas prévu de perdre son chat, son âne, son coq et sa bougie. Mais il s'est dit, mais Dieu, il sait ce qu'il doit faire. Et je suis sûr que qu'est-ce que Dieu a fait, c'est sûr que c'est la meilleure des choses. Ça, c'est une approche qu'on peut avoir dans le bitachon. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, quelle différence entre la Emouna et le Bitachon, et surtout la question qui est demandée, on ne dirait pas de Dieu dans le Tehillim. Bitrou Bashem Adéat, ayez un Bitachon en Dieu et de manière éternelle. Israël Betar Bashem, les chansons qu'on chante aujourd'hui régulièrement avec les soldats. Et la réponse, elle est le même Tehillim que tu dis qu'on a dit tout à l'heure. Aboter Bashem, Chesed Yesovevenu. Celui qui a confiance en Dieu, celui qui a un réel Bitachon en Dieu, et qui sait que Dieu il va faire en sorte que ça se passera de la meilleure manière. Il est garanti d'avoir chesed, d'avoir la bonté qui va l'entourer. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, le Pirush HaEkrim nous dit qu'on a mentionné au début que Bitachon, c'est la Hamshir chesed chinam à la batrim, de donner cette bonté gratuite à tout celui qui a le Bitachon. Ce n'est pas en fonction si je mérite ou je ne mérite pas. Peu importe si je mérite ou pas. Même si je ne mérite pas, le fait d'avoir un Bitachon au final te donne cette certitude de pouvoir se dire Dieu va me sortir de là. Le Rabbi Asser rajoute encore un détail. On raconte une fameuse histoire avec un couple qui n'avait pas eu d'enfant pendant de nombreuses années. Ils ont fait plusieurs examens médicaux, rien n'a aidé. Ils ont parti de aller voir un rabbi en lui demandant une bracha pour avoir des enfants. Et quand il a entendu leur demande, il leur a donné une bénédiction en leur disant que d'ici un an, vous allez avoir un enfant. Après un an, la bénédiction s'est accomplie, ils ont eu un enfant, ils ont fait un brit milah, mazel tov, la vie est belle. Ses disciples sont entrés chez ce rabbi. Ils ont demandé, comment ta bracha s'est pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu un tel miracle? Comment tu as réussi à faire un tel miracle? Il a dit, je vous dis la vérité. C'est ma bracha qui a fait le miracle. Mais c'est la émouna des parents. Une fois qu'ils ont reçu ma bénédiction, ils ont eu une telle émouna que les choses ont passé de cette manière. Ils sont partis dans un magasin où on vend les choses pour bébé. Ils ont acheté des poussettes, ils ont acheté un lit pour enfants. Ils ont acheté toute une chambre pour enfants. Ils étaient garantis, ils étaient avec cette certitude que les choses ont passé de cette manière. Ça a ouvert le tuyau de bonté de Dieu envers eux. Ils ont eu cet enfant. Quelle est l'idée derrière? Le rabbi te dit comme ça. Bitachon, ça veut dire que on est garanti que Dieu ne répond jamais en vain. Dieu, il a fixé dans son monde Mida, Kenegan, Mida, mesure pour mesure. Et plus quelqu'un il a confiance, plus quelqu'un il a ses bitachon, plus il est garanti que Dieu rajoute sa bonté envers lui. Alors, quelqu'un va dire, mais c'est un jeu d'enfant, c'est un comme si, comme il a dit tout à l'heure, comment il t'appelle, je sais pas comment il s'appelle.
Marvin.
Marvin a dit que c'était mignon. Ok, c'est vrai que c'est mignon, pour certaines personnes. Vu la Torah de Dieu, on doit se forcer à se dire que c'est pas que mignon. C'est beaucoup plus que mignon. Pourquoi? Parce que le bitachon ne veut pas dire que, ah, j'ai bitachon que demain je vais gagner l'auto, ça veut dire que demain je vais gagner l'auto. On n'a pas dit une chose pareille, c'est la réalité, c'est pas comme ça. Et qu'est-ce que c'est demain? Tu décides que tu vas recevoir la plus grande, pas la plus grande richesse sur terre, la plus grande héritage. Pas forcément que ça va se passer. Bitachon, c'est de se dire qu'au final, c'est comme un enfant unique qui est né à des parents à un âge avancé qui sait que le bon Dieu va faire pour lui tout ce qu'il faut, comme le Baal Shem Tov dit. Et quand on a une telle approche, on est garanti que Dieu ait fait descendre du ciel la plus grande abondance. Ça viendra avec une merveilleuse lettre. Une lettre du Rabbi Negrot Kodesh dans la lettre 4090. Une lettre dans laquelle une personne écrit au Rabbi la phrase suivante. Je suis marié, j'ai deux enfants, mais toute ma vie est pourrie. Il y a beaucoup de gens, parce qu'ils sont mariés, ils ont la misère à la maison. On ne parle pas des gens ici. Il y a des gens qui, comme ça, ils se disent, qu'ils se disent avec tout. Et c'est comme ça qu'il commence sa lettre. Maintenant, on ne connaît pas exactement toute sa lettre. Mais apparemment, de ce qu'il écrit au Rabbi, il a eu deux problèmes. Il avait un problème de santé et il avait un problème de parnassa. Le Rabbi, dans la lettre, il lui dit, tu commences ta lettre avec une phrase et la suite de ta lettre, tu te contredis à 180 degrés. Comment tu peux commencer ta lettre en disant que tu es marié et tu as deux enfants et juste après tu dis toute ma vie est pourrie? Le Rabbi dit, tu sais combien de dizaines de milliers de personnes font tout sur terre pour essayer de trouver leur partenaire, leur âme sœur, ils n'ont pas encore trouvé? C'est combien de dizaines de milliers de personnes font tout pour avoir un enfant? Le Rabbi dit, toi tu m'écris que tu en as deux. Le Rabbi dit, apparemment, ça a l'air que tu as ces deux enfants, pas forcément parce que tu as fait quelque chose de particulier, fécondation, in vitro, va savoir, problème de fertilité, fécondité, naturellement. Et tu oses dire que ta vie est mauvaise. Dans la lettre, l'Arabie continue, si vous voulez, après tu envoies le texte, l'Arabie écrit deux pages en le disant que dans la vie, il faut savoir ne pas être kafoui tova, ne pas être ingrat avec la bonté que Dieu a fait envers chacun d'entre nous. Première des choses qu'on fait, on est schizophrène du remerciement. La première des choses qu'on fait tous les matins, moderni, la première phrase, avant d'écouter BFM, regarder les dépêches et les nouvelles, avant de crier sur sa femme, sur son mari, on est en retard, les enfants, remercier Dieu qui m'a rendu mon âme. C'est pas un dû, c'est pas une obligation. On commence à te filer à la première des choses, Odou Lachem, on dit encore une fois, on remercie Dieu. Sans arrêt, on parle du remerciement. Et tout le monde demande la question, c'est, j'ai déjà remercié une fois hier, j'ai déjà remercié une fois au début de la semaine, au début du mois. Pourquoi remercier tous les jours? Pour tous les jours prendre conscience, tous les psukés des Imra qu'on dit dans la tefila pour celui qui fait toute la tefila du matin. On te dit, pourquoi ne pas commencer la tefila avec la Amida? Il y a une halakha dans Shulchan Aruch que quelqu'un qui arrive en retard à la synagogue. On te dit que parfois, c'est arrivé en retard, passe à la Amida. L'Admor Hazaken, il est contre. L'Admor Hazaken dans Shulchan Aruch Harav, il te dit non. La Amida, elle a une structure. Elle a une stratégie. Tu viens pas, la première des choses, tu arrives, tu viens de sortir du lit, tu commences à demander. Première des choses, donne des louanges à Dieu. Ça, c'est psuké des Imra. Pour ça, il interdit. L'Admor Hazaken, il dit non, t'es arrivé en retard, tant pis. Tu commences d'abord par donner des louanges, commence d'abord par dire merci Dieu. Après, tu vas commencer à demander ce que tu as besoin. Pas les choses à l'envers. Tu arrives, tu demandes. D'abord, dis merci. Rabbi te dit, c'est la même chose qui s'est passé avec Moshe il y a deux semaines. Dans Shema, ta Torah te rajoute un verset avec cinq mots. Quand Moshe il a tué l'Égyptien qui l'a enseveli dans la terre, et après, il est parti le lendemain, et il a vu encore un juif taper un autre juif qui était ses pires ennemis jurés. Tatan et Aviram, de qui il a souffert toute sa vie. Et il dit quoi? La Torah nous dit que Baishma, Moshe. Que Moshe l'a entendu, Moshe il a eu peur en se disant « Achen noda adava ». Les gens sont au courant de ce qui s'est passé hier, il faut que je m'enfuis, il s'est enfui. Pendant de 30 ans à 80 ans, c'est pas ce qui s'est passé de sa vie. La Torah elle dit pourquoi la Torah elle te raconte, elle te rajoute ces cinq mots. Pourquoi parler du mal de Moshe? Elle a vu qu'il t'explique parce que la Torah elle veut te montrer ici que le fait que Moshe a eu peur, ça l'a obligé à s'enfuir. S'il n'aurait pas eu peur, il n'aurait pas eu besoin de s'enfuir, il n'aurait pas eu peur que Pharaon veut le tuer, pour ça il doit s'enfuir et partir. Ça, ça agit sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? Regardons la dernière lettre, le Rabbi dans les Gottes Kodesh 16, page 252. Il dit, c'est connu que le Rabbi Rachab, il disait, le Rabbi Maharash, il disait que quand on ne peut pas aller par en dessous, on va par au-dessus. Et moi, je dis que depuis le départ, il faut aller par au-dessus. Il répond, il dit, bah, même chose quand on parle du bitachon. Tu as des gens qui peuvent choisir de se dire, j'attends que la situation s'améliore, et une fois que la situation va s'améliorer, je vais commencer à croire en Dieu. Et tu as des gens qui vont te dire, d'abord, je vais renforcer mon bitachon. Et après, la situation va s'améliorer. Et pour ça, je ne vais pas ne pas terminer, puisqu'on arrive au mois d'Adar. Si Dieu veut, même si cette année on a 60 jours de Hadar, le Rabbi avait l'habitude de dire que 60 jours, on sait que dans la halakha, le chiffre 60, c'est un chiffre important, parce qu'on dit que le chiffre 60 annule toutes les mauvaises choses. Et quand on a une année dans laquelle on a 60 jours de Hadar, 60 jours de Simcha, 60 jours de joie, ça annule tous les mauvais décrets, ça annule toutes les mauvaises choses, et que Dieu fasse qu'avant Hadar déjà, on puisse mériter des bonnes nouvelles. Mais on va terminer avec une merveilleuse histoire qui s'est passée avec un juif marocain, un juif français. C'est un juif qui s'appelle Yehuda Ben Soussan. Écoutez bien cette histoire.
Ben Soussan, ok.
Il a eu une fille unique après 10 ans de mariage, grâce à une bracha du Rabbi. À l'âge de 10 ans, cette fille, elle a commencé à se plaindre qu'elle a mal à la tête, qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et après qu'on a fait quelques examens, en essayant de découvrir ce qu'elle a, on a découvert qu'elle a une tumeur dans le cerveau. Le seul conseil qu'elle avait à les habitants en Israël, c'était de la faire voyager, de la faire prendre un vol pour aller se faire opérer à Boston. C'était le seul endroit où elle pouvait opérer cette tumeur. Ils sont arrivés à Boston. Le docteur, il a dit, vous avez deux possibilités dans vos mains. Ou bien une opération, mais je ne peux pas garantir qu'elle va se réveiller. Ou bien la laisser telle qu'elle, mais elle a 6 mois de survie. À vous de choisir. On peut essayer de faire une opération pour enlever la tumeur, pas garantir qu'elle se réveille, et surtout sans séquelles. Ou bien, on ne fait rien, mais elle n'a pas duré 6 mois. Le père est tellement brisé. Ils étaient déjà à Boston. La femme, comme beaucoup de femmes, on dit les femmes, grâce au mérite des femmes, on est sorti d'Égypte. Elle lui dit, écoute, on est à 2 heures de New York. Va voir le Rabbi Lubavitch. Demande une bracha. Boston, New York, c'est pas loin. Va voir le Rabbi. Va lui demander la question. Va lui demander ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que c'est une fille qui est née par la bracha du Rabbi il y a 10 ans. C'est le Rabbi qui t'a donné une bracha pour cette fille. Va lui demander quoi faire. Va lui raconter l'histoire. Il va à New York. Il rentre en audience privée chez le Rabbi. J'ai eu la chance moi-même d'être en audience privée chez le Rabbi en 1978, 79, 80, 81. En 82, le Rabbi l'a arrêté de recevoir en audience privée. C'était pas un groupe français anglais. En 85, c'était déjà dans la grande synagogue. Mais jusqu'à 81, 82, l'Arabie recevait dans son bureau tous les soirs, 3 fois par semaine, de 9h du soir à 7h du matin. Et tu savais quand tu rentrais en général la veille, on te disait tu vas rentrer ce soir à 2h moins quart, ou 2h15. Eric Sharon, ceux qui venaient voir l'Arabie, on leur disait le rendez-vous à 4h15 du matin. Pour ceux qui ne sont pas habitués à avoir des rendez-vous à telle heure, ils se disaient c'est quelque chose de bizarre. Mais une des raisons, c'était parce qu'on voulait les mettre à la fin de la liste, on savait qu'ils plus de temps pour parler avec l'Arabie, etc. Lui, il arrive en Yichidut. Il rentre en audience privée dans chez l'Arabie, il commence à pleurer. Il ne peut même pas exprimer ce qu'il a à dire. Et il commence à raconter sa souffrance, sa fille. L'Arabie le regarde et lui dit, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Dès qu'on rentre dans le mois d'Adar, on dit qu'il faut rajouter dans la joie. Et toi, tu viens ici faire le contraire. Qui t'a permis de faire entrer dans ma chambre la tristesse pendant le mois d'Adar? Ce n'est pas une phrase que l'Arabie avait l'habitude de parler en général. L'autre, le père, il pensait que l'Arabie fait une blague. Il pensait que l'Arabie se moque de lui. Et il a commencé à crier en disant, Rabbi, mais Rabbi, c'est la vie de ma fille qui est en jeu. Je ne suis pas en train de faire de la comédie. Je ne suis pas un humoriste. Et Rabbi qui continue en lui disant, et c'est comme ça que tu penses sauver ta fille, en pleurant, par ça que tu fais rentrer de la tristesse dans mon mois, dans ma chambre, dans le mois d'Adar. Ok. Le père, il a dit, je suis prêt à être joyeux, mais comment je peux être joyeux? Ma fille est sur le point de mourir. Je ne peux pas être joyeux. Rabbi lui dit, Adar, c'est un mois de Simcha. Et le mois de Simcha, c'est un mois que Vena Farou. Rabbi fait avec ses mains que tout se transforme, on dit dans la Megillah, que tout s'est transformé. Et Rabbi, il fait avec ses mains, tout se transformera. Le mois d'Adar. Le père, il sort du bureau, il se rappelle qu'il a oublié pourquoi il est venu. Pourquoi il est venu voir le Rabbi. Pour demander s'il fait une opération ou pas. Et là, il était tellement avec ce dialogue qu'il a complètement oublié ce qu'il faut faire. Il a demandé au secrétaire s'il peut rentrer une deuxième fois. Le secrétaire dit, t'as pas vu la queue qu'il y a derrière toi? Impossible, il n'est pas rentré une deuxième fois, c'est pas comme on veut. Si tu veux, écris sur un papier, écris quelques mots. Je fais rentrer ça au Rabbi. Il s'assoit, il écrit au Rabbi. Le secrétaire fait rentrer son papier dans le bureau. Le Rabbi répond au secrétaire, je lui ai déjà répondu. Le père qui est têtu, il dit, je demande au Rabbi, je veux une réponse claire. Vous savez, quand on est marocain, je sais pas. Il dit au Rabbi, il dit, je suis pas venu pour m'amuser. Je suis venu, je veux savoir la réalité, dis-moi quoi faire. Et là, le Rabbi lui dit la phrase suivante, écoutez bien. Il dit, s'il demande, et s'il veut vraiment une réponse, il n'a qu'à demander un troisième docteur. C'est très bien que plein de fois l'Arabie demandait que parfois il faut toujours avoir l'avis d'au moins 2 médecins professionnels en la matière. Il demande un troisième avis. Plus tard, il a compris c'était quoi le danger dans lequel il est rentré. Ça, c'est à la fin de l'histoire. Il est parti voir un troisième docteur. Le troisième docteur, il a fait l'opération. Et quand il a ouvert la tête, il a vu que la tumeur qu'ils ont pensée, c'était pas du tout ce qu'ils pensaient. Ce qu'ils voyaient dans les machines à l'époque, c'était pas du tout le grand va savoir ce qu'ils ont pensé. Et malheureusement, à cause de l'opération, la fille a payé un prix très lourd. Elle a arrêté de parler. Vous ne pouvez plus parler. Ça, c'était le dégât qui s'est passé à cause de l'opération. On était allé au mois d'Adar. Ils sont toujours encore à New York, Boston, à côté. Pessah, ils sont venus faire Pessah, le Seder à Flatbush, qui est à côté de Brooklyn. On sait très bien qu'il y a la Mimouna chez les Marocains. Et il y a Soudat Mashiach, le repas de Mashiach à la fin de Pessah. Ils sont partis voir le Rabbi dans le Fabrigan du Rabbi. Pendant les interruptions entre les discours du Rabbi, le Rabbi, à chaque fois, il disait le Chaim à tout le monde, à ceux qui demandaient. Et le Rabbi, il appelle. Et le Rabbi lui donne deux morceaux de matzah. Et le Rabbi lui dit comme ça. La matzah, c'est connu que c'est écrit dans le Zohar, que c'est un pain de guérison et un pain de Emouna. Un morceau, tu donneras à ta fille pour qu'elle ait une refoua, qu'elle ait une guérison. Et un morceau, tu prendras toi pour que tu aies la Emouna. Ta fille ne doit pas subir du fait que tu as, toi, un manque d'Emouna. C'est les mots que le Rabbi lui dit. Après ça, il est arrivé à Kochel Bracha, quand le Rabbi terminait le Fabring, la réunion chassidique avec des milliers de personnes, où j'ai été pendant des dizaines de fois. À la fin de Yom Tov, le Rabbi donnait un peu de vin à chaque fois, des milliers de personnes qui venaient, avec des brachot. Et là, le Rabbi lui dit la phrase suivante. En règle générale, on a d'abord le mois de Nissan, qui est le mois de la Emouna. Et après, on a le mois de Iyar, qui est le mois de la Refoua, le mois de la guérison. Mais ici, il peut y avoir le Vénard à Forchou, il peut se transformer comme le mois d'Adar. Et la Refoua, la guérison de ta fille, ne doit pas attendre que tu aies la Emouna. D'abord, elle va guérir. Et après, tu auras la Emouna. Le soir, il rentre à la maison, sa fille commence à parler. C'est quoi cette histoire? La leçon pour chacun d'entre nous, comme l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui disent d'abord que Dieu me remplisse le compte en banque. Après, je commencerai à mettre tefilin. D'abord, que Dieu fasse en sorte que je gagne tout ce que j'ai envie, que j'ai tout ce que j'ai besoin. Après, je fais ce qu'il me demandait. Viens la parachat cette semaine, te dit, c'est quoi? D'abord, renforce ton bitachon. D'abord, dis-toi que Dieu veut ton bien. Dieu veut t'envoyer tout ce que tu as besoin. Et grâce à ça, on méritera d'avoir toutes les bénédictions possibles et imaginables. Que Dieu fasse qu'on entende et qu'on puisse toujours partager que des bonnes nouvelles de nos frères et sœurs en Israël. Que tous ceux qui ont besoin, une longue vie, bonne santé. Que nos soldats puissent vaincre ce terrorisme dans les quatre coins d'Israël et au-delà. Amen. Que tous les otages reviennent en bonne santé, vivants. Que tous les blessés guérissent et qu'on puisse partager que des bonnes nouvelles. Amen. Le cours sera replay sur retora.fr.